Radio Grand Ciel, bonjour, le chemin du milieu, Caroline pour vous présenter les jésuites en Chine. Aujourd'hui, la première partie, Matteo Ricci. Et bien sûr, Simon la technique. Le premier qui se dédia à ce principe, à cette guerre, et commença à battre le mur, fut notre Saint-Père François-Xavier, qui, ayant fondé toutes les chrétientés d'Inde et des Moluques, fonda en dernier celle du Japon, avec le bonheur que son esprit apostolique espérait. Il décéda en 1552 sur le rocher qui regarde la Chine, autour duquel mouillent les bateaux étrangers en attente de débarquer leurs marchandises à Canton, pas plus de deux fois l'an. Cette même année, naissait Matteo Ricci en Italie, ignorant tout du destin hors du commun qui lui était réservé, dont les remous allaient émulsionner le monde. Poursuivant sa scolarité au collège jésuite de Rome, afin de se former intellectuellement et spirituellement au sacerdoce, il s'engagea dans les missions étrangères d'Orient et de l'université de Coimbra au Portugal, rejoignit la mission de Goa en Inde où il fut ordonné prêtre. À la demande du père Ruggieri, Matteo s'installa à Macao, une concession portugaise au sud de la Chine, octroyée par l'empereur en remerciement d'avoir débarrassé les voies commerciales maritimes des pirates indonésiens. Par l'influence de la lecture du Devisement du monde de Marco Polo, il brûle d'apporter la parole de Dieu dans la Chine des merveilles. Et pour surmonter cette barrière infranchissable de la langue qui avait valu le rejet du père Pérez, il s'inscrit au cours de mandarin de l'université jésuite de Macao. C'est autre chose que le grec et l'allemand, assure-t-il. La langue parlée est sujette à tant d'équivoques que beaucoup de sons signifient plus de 1000 choses, et parfois il n'y a pas d'autre différence entre l'une et l'autre que de prononcer le son avec la voix la plus élevée ou plus basse en 4 espèces de tons. C'est pourquoi quand ils parlent entre eux, les Chinois parfois écrivent pour faire comprendre ce qu'ils veulent dire, car les choses sont différentes l'une de l'autre par l'écriture. Quant au caractère, c'est une chose à laquelle on ne peut croire, si on ne l'a pas vu ou expérimenté comme je l'ai fait. Il y a autant de lettres que de paroles ou de choses, de telle sorte qu'elles dépassent 60 000. Leur manière d'écrire est plutôt une manière de peindre comme nos peintres. Il en découle cette utilité que toutes les nations qui ont cette écriture peuvent se comprendre au moyen des lettres et des livres, bien que leur langue soit différente. Il ne tarde pas à se faire des relations parmi les marchands chinois, dont le frère du gouverneur de Canton, qu'il séduit avec les mécanismes des horloges qu'il construit. Et quand enfin, en 1583, le gouverneur, friand de ses nouveautés, fit venir Matteo à Canton, c'est en habit de bonze qu'il se présente, car les pères, écrit-il, allant avec la barbe rasée et avec leurs cheveux courts, les Chinois ne pouvaient se persuader qu'ils étaient autre chose que des Heishang, étant donné qu'ils ne prenaient pas femme, qu'ils récitaient l'office et résidaient dans des églises, chose semblable en tout à leur Heishang. Mais aux questions du gouverneur, nous lui répondîmes que nous étions des religieux qui servaient le Seigneur du ciel et que nous étions venus de l'Occident le plus lointain en 3 ou 4 ans pour la réputation du bon gouvernement chinois et que nous désirerions un lieu loin de la turpitude des commerçants. Content de ses cadeaux, le gouverneur l'envoie s'installer à Chaozhin, un petit village à l'ouest de Canton. Les gens n'ayant jamais vu d'étrangers, nous provoquons dérision et émerveillement. Quand nous passons dans la rue, il faut le faire en hâte pour éviter que la route ne soit obstruée par une multitude de curieux. On nous donne 1000 surnoms, dont le plus ordinaire est « diables étrangers ». Mais les personnes distinguées nous honorent beaucoup et viennent avec une grande politesse à notre maison et à notre chapelle. Ils se mettent à la tâche et traduisent les 10 commandements en chinois qu'il veut expliquer aux lettrés du bourg, car il se souvenait de cette lettre que François Xavier avait écrite à Ignace de Loyola, 10 ans. La Chine est un pays immensément grand, peuplé de gens très intelligents et par de nombreux savants. Ils sont si adonnés au savoir que le plus instruit est le plus noble. C'est donc par les lettrés qu'il faut introduire le christianisme, se dit-il. Il se défait de son habit de moine bouddhiste, car, écrit-il, les bonzes sont si vils et mal considérés que malgré tout l'honneur qui leur est rendu, nous sommes jusqu'à présent l'opprobre de tous et les injures qui nous sont faites que nous ne pourrons pas les écrire par correspondance. Les Cheng, qui sont nos bonzes, ont quelques soupçons de la vie à venir, de la récompense pour les gens de bien et de la punition des méchants. Néanmoins, toutes leurs affirmations sont mêlées d'erreurs. Les Tao, eux, ils imitent un certain homme qui doit être adoré, pensent-ils pour sa sainteté. Et ces prêtres de ces deux dernières sectes mènent une vie très basse et très stérile. Il est vrai, écrit-il, qu'il n'est pas de notre profession d'aller rechercher les honneurs, mais ce pays où la religion de notre Seigneur est ignorée et où le renom de la sainte loi dépend tellement du crédit de ses prédicateurs, il est nécessaire que nous accordions pour l'extérieur aux coutumes et à la manière de procéder. Je veux me faire tout à tous pour les acquérir à Jésus-Christ. Le temps passe et les cheveux de Matteo poussent. Il les resserre en un chignon sur le sommet de sa tête, qu'il coiffe d'un bonnet à deux ailes en gaze empesée. Sa robe est pourpre et bordée de soie bleu ciel, sur une largeur de plus d'une demi-palme, écrit-il fièrement. Les manches sont très larges, la ceinture qui lui enserre la taille se rejoint en deux pans frôlant la terre. Ses chaussures sont de soie brodée, et lorsqu'il rejoint enfin la maison du gouverneur en palanquin, il apporte avec lui une planisphère écrite en chinois sur laquelle il avait fait glisser le monde afin que l'empire du milieu s'y trouvât au centre. Lorsque les mandarins virent pour leur grande joie le siège d'honneur qui correspondait à la Chine et combien énormes étaient les mers et les distances qui séparaient les pays étrangers de leur empire, ils perdirent la peur d'être envahis par les gens de l'Occident. Alors qu'on l'appelle déjà Li Matteo, il se lie d'amitié avec le fils du juge du tribunal de Nankin, passionné de mathématiques et qui semble très curieux d'apprendre la philosophie occidentale. Matteo se met alors à étudier les livres canoniques chinois afin d'y trouver des analogies avec le christianisme. C'est alors qu'il comprend que la doctrine de Confucius veut que les hommes suivent la lumière de la nature comme leur guide, qu'ils s'efforcent sérieusement d'acquérir les vertus et qu'ils s'appliquent à gouverner d'une manière ordonnée leur famille et leur communauté. Tout cela, certes, mériterait d'être loué, écrit-il, si Confucius avait fait mention du Dieu Tout-Puissant et de la vie à venir. Malgré cela, on doit avouer qu'aucune doctrine, parmi les Chinois, n'approche autant la vérité que la sienne. Mathéo l'a décidé, ce sera par l'intermédiaire des hommes de lettres confucéens qu'il parviendra à l'empereur, qu'il espère en secret convertir. Passionne les lettrés de la ville et en vient à affirmer que si nous voulons que les Chinois s'intéressent à nos enseignements religieux, le meilleur moyen est de leur donner de la science avec la religion. Cela retient mieux leur attention que tout le reste. Et ils voient que notre science est construite sur des preuves solides, ce qui leur fait penser que notre religion doit être aussi bien fondée. Mathéo est rassuré lorsque Tzu, son premier disciple, se fera baptiser que 10 ans après leur rencontre sous le nom d'Ignace, lui assure que cela n'est point pénible ni difficile, surtout pour des gens qui espèrent le bonheur dans l'autre vie, comme la religion chrétienne le promet. Jusqu'ici, nous autres Chinois, nous ne sommes pas exercés à de telles pratiques, parce qu'aucune religion ne nous a mis en assurance d'une telle récompense. À Nanchang, où il vit désormais, en dépit de l'interminable attente de franchir les murs de la cité interdite, les livrets de visite grossissent de telle façon que je n'ai pas le temps de manger mon repas avant midi et que je ne peux réciter mon bréviaire qu'à la tombée de la nuit. Je parle du matin au soir, quoique je n'explique pas tous les mystères de notre sainte foi, toutefois, je progresse en jetant les premiers fondements. Il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre. L'âme est immortelle. Ce sont des choses qui leur sont totalement inconnues et qui n'ont pas été crues par eux jusqu'à présent. Plusieurs, en entendant cette doctrine, éprouvent tant de contentement qu'ils fondent en larmes comme si c'était moi qui l'avais découverte. En ces débuts, il semble préférable de commencer par les explications qui se fondent sur la raison. Ses auditeurs font imprimer un petit opuscule de ses causeries. Mathéo en est honoré. Cela m'a valu à moi-même et à notre Europe plus de crédit que tout ce que nous avions fait jusqu'alors. Car les autres objets nous obtenait la réputation d'homme experte à fabriquer des instruments et des outils mécaniques, mais par ce traité, nous avons gagné un renom de lettré, ami de l'esprit et de la vertu. Devenu désormais dans les cercles lettrés le sage d'Occident, il reçoit enfin une lettre de son ami Tsiu qui le remplit de joie. Le Pimpou de Nankin fait grand cas de votre révérence. L'année passée, il a insisté vivement pour que je vous emmène avec moi à Pékin. Mais alors, je n'étais point libre de retourner au sud. D'autres mandarins, eux aussi membres de la cour de Pékin, très érudits, souhaitent vous inviter. Prévenez-moi si vous pouvez accepter. Bien sûr qu'il acceptera, et il ira en tant que supérieur de la mission de Chine, dont il vient d'avoir la charge, ayant aussi pour mission d'offrir à l'empereur de la part du pape un Christ, une peinture de Madone, une map-monde, un petit orgue et deux horloges. Matteo embarque sur la jonque impériale et rejoint Nankin, qui, dit-il, passe en beauté et en grandeur toutes les villes du monde. Elle est pleine de très grands palais, temples, tours et ponts. Elle est environnée du circuit de trois murailles. Le premier est celui du palais royal. Il est en vérité tout à fait magnifique. Nulle part au monde, il n'y a un plus beau palais. Le grand canal entraîne la jonque jusqu'à Pékin qui fait l'admiration de Matteo. Ceinte de deux murailles hautes et fortes, dont la largeur est telle que 12 chevaux y peuvent aisément courir de front ensemble. En hauteur, elle surpasse de beaucoup celle de nos villes européennes. Il y a des troupes de soldats qui la nuit font aussi une bonne garde. De jour, il y a des eunuques qui montent la garde à la porte ou disent qu'ils la montent car en fait, ils exigent des péages. Il y a en la ville de Pékin peu de rues pavées et de briques ou de cailloux, d'où l'on peut douter en quel temps le fait de marcher est le plus fâcheux. Car en hiver, la boue, en été, la poussière, l'une et l'autre très importunes, lassent également ceux qui marchent par la ville. Et d'autant qu'il ne pleut pas souvent en cette province, toute la terre se résout en poussière, laquelle, venant à être enlevée au moindre vent, il n'y a aucun lieu dans les maisons où elle ne passe et gâte tout. Si bien qu'il n'y a personne, de quelque qualité qu'il soit, qui marche à pied ou à cheval, sans voile, lequel va pendant du bonnet à la poitrine et couvrant la face. Ce voile apporte aussi une autre commodité en cette ville que vous n'êtes pas connu que quand il vous plaît. Thank you. Matteo, installé dans la maison du président du bureau des rites, attend patiemment d'être reçu par l'empereur, qui accepte les présents, mais ne daigne lui accorder aucune audience, et s'en retourne à Nankin, par la terre, où il y reste vivre. C'est la plus grande et la plus belle des cités du monde, tant par la splendeur de ses édifices publics que par la fertilité de sa campagne, le climat favorable, la noblesse du génie, la civilité des manières, l'élégance de la langue et finalement la multitude d'habitants, parmi lesquels les lettrés qui vont l'accueillir. Le philosophe Li Qi dira « Ce père Li Qi est un grand homme des régions du Grand Occident. Il a parcouru plus de 100 000 Li en Chine. Il n'y a aucun de nos livres qu'il n'ait lu. Maintenant, il est parfaitement capable de parler notre langue, d'écrire nos caractères et de se conformer à nos usages de bienséance. C'est un personnage tout à fait remarquable. Extrêmement raffiné en lui-même, il est des plus simples dans son extérieur. Dans une assemblée bruyante et confuse de plusieurs dizaines de personnes, où les répliques fusent de tous côtés, les disputes auxquelles il assiste ne peuvent le troubler en rien. Tous lui sont inférieurs. Mais je ne sais trop ce qu'il est venu faire ici. Je pense qu'il voulait substituer ses propres enseignements à ceux du duc de Chu et de Confucius. Cela serait par trop stupide. Ce ne doit donc pas être cela. Substituer, non. Trouver l'analogie qui les convaincrait. J'ai lu sans relâche les livres classiques. J'y ai appris que les hommes de bien des anciennes générations vénéraient le souverain suprême du ciel et de la terre. Car au commencement, quand rien n'existait, il faut nécessairement que le Seigneur du ciel soit, qu'il se présente comme origine de toute chose. Ces déductions faites, il explique aux lettrés confucéens l'existence incontestable de Dieu en leur disant « L'œuvre du Créateur est merveilleuse et possède son propre ordonnancement. Mais tout cela fut établi par le Seigneur du ciel, celui qui est à l'origine des choses et qui est lui-même sans origine. Celui à qui est adressée la haute vénération ne peut être double, mais doit être unique. Sans maître suprême pour orienter et diriger, comment éviter le désordre ? Nous le désignons par maître du ciel. Mais qui l'a engendré, lui rétorque-t-on ? Le Seigneur du ciel signifie justement l'origine ultime de tout, l'univers, les esprits surnaturels, et les âmes humaines ont un commencement, mais pas de fin. Seul le Seigneur du ciel n'a pas de commencement ni de fin, étant l'origine de tous les êtres et de leur fondement, car ce qui est unique ne peut être double. Dans le livre des rituels, il est dit « Le Fils du ciel laboure lui-même les champs afin de produire le millet et sa liqueur qui sont offerts en sacrifice au souverain suprême, celui que nous appelons, Seigneur du ciel, dans mon pays, est appelé souverain suprême en chinois, mentionné dans l'invariable milieu par Confucius. » Et bien qu'il étonne ses lettrés, car on dit que cet homme est un missionnaire, mais si c'est le cas, il emploie de curieuses méthodes. Il ne prononce pas d'homélie, il ne fait pas le catéchisme aux petits-enfants, il ne dit pas la messe devant des assistances composées de Chinois, il ne parle guère du Christ et de la Vierge ni des saints. Il n'évoque pas la résurrection, il parle fort rarement de l'immortalité de l'âme. Non. Il les charme avec Copernic qui assure que la Terre n'est pas le centre de l'univers, avec Galilée et ses étoiles qui tournent autour de Jupiter, et Kepler et ses orbites elliptiques des planètes. Rappelé une deuxième fois à la cour, il peut enfin exposer sa théorie à l'empereur Wanli, qui semble bien plus séduit par les horloges au cadran dont les chiffres sont écrits en chinois et qui sonnent les heures. Presque arrivé à son but, il s'en fallut peu que la cabale de quelques bonzes appuyés de plusieurs mandarins ne renversa en un moment, par la chute du père Ricci, l'ouvrage de plusieurs années, écrira le père Lecomte. Les jésuites sont accusés par les Chinois de servir les étrangers mandchous et de corrompre les mœurs chinoises. On parle même de sorcellerie, les accusant d'utiliser une croix et des images pieuses comme des amulettes. L'obèse empereur Wanli, imperturbable comme un Bouddha, affectionnant Matteo pour son savoir, prétexta que personne d'autre que Matteo ne connaissait le fonctionnement sonore des horloges. Et afin qu'il puisse l'enseigner aux eunuques, il lui offrit un lopin de terre pour construire sa chapelle qui, disait Matteo, devint trop petite pour accueillir les fidèles. Lorsqu'il mourut en 1610, le père Diego de Pantoja envoya une demande à l'empereur afin qu'il accordât un peu de terre pour couvrir en ce grand royaume cet homme qui s'est adonné aux vertus que vos livres enseignent. Le directeur du bureau des rites, ami de Matteo, envoya aussi une requête à l'empereur. Je supplie votre majesté que soit recherché pour sépulture quelques temples déserts et inhabités. L'empereur accorda le temple bouddhiste, discipline et bonté, où repose Matteo. La stèle nous rappelle le souvenir de celui qui, venant du Grand Occident, avait la réputation d'un homme juste et fit imprimer des livres renommés. Thank you.